Allô, allô, ici Ciné Herri.
Le 15 octobre 1940, après 2 ans et demi de travail, dont 6 mois de tournage, se tient à New York la première mondiale de The Great Dictator, le dictateur. Charles Chaplin, artiste et citoyen britannique, déjà mondialement célèbre, a produit et réalisé aux États-Unis cette œuvre satirique qui témoigne une fois de plus de son engagement politique. Il suffit de mentionner simplement pour mémoire Shoulder Arms, Charlot Soldat, un film pacifiste sorti en 1918 avant même la fin de la Grande Guerre et dont Ciné Herri a traité, ou bien encore Modern Times, les temps modernes en 1936. Rappelons que lorsque sort le dictateur, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre et la Grande-Bretagne résiste seule à l'Allemagne nazie. Dans ce film, qui connaîtra d'emblée un très grand succès commercial, le plus grand succès de toute la filmographie de son auteur, Chaplin livre avec le personnage d'Hinkle une violente charge comique contre le régime nazi d'Hitler, son antisémitisme et son bellicisme, ridiculisant au passage également le fascisme italien et son chef Benito Mussolini à travers le personnage de Benzino Napoleoni interprété par l'acteur américain Jack Hookie. Signalons aussi Garbage, un nom construit sur la contraction de garbage et rubbish, deux termes anglais qui signifient ordure et déchet. Ce nom évoque celui de Joseph Goebbels, qui inspire ce personnage interprété par le comédien britannique Henry Daniel. De même, notons la présence d'un certain maréchal Herring, un mot anglais désignant le hareng, qui, comme on sait, pourrit par la tête. Un dignitaire, interprété par le scénariste et réalisateur américain Billy Gilbert, et dont l'aspect physique fait spontanément penser au maréchal Hermann Göring. On sait aujourd'hui qu'Hitler, qui s'était fait construire une salle de projection dans sa résidence du Berghof à Berchtesgaden, a visionné à l'époque le film avec les membres de ce qu'il est convenu d'appeler son premier cercle, notamment Houston Chamberlain. En revanche, le film fut censuré en Allemagne durant toute la durée de la guerre et ne fut diffusé dans ce pays qu'en 1958. Le gouvernement allemand avait d'ailleurs émis des protestations officielles dès sa réalisation et demandé en vain l'abandon de ce projet. Le réalisateur dut par conséquent le mener à bien malgré d'importantes pressions, notamment de la United Artists. Mais cela n'empêcha pas Chaplin de militer activement pour l'ouverture d'un second front contre l'Allemagne hitlérienne. Son engagement politique, toujours très critique, lui a valu, après la guerre, bien des difficultés avec la Commission des activités non américaines, au point qu'il fut accusé de sympathie communiste et que le FBI et le Congrès menèrent des enquêtes sur lui et qu'il perdit son visa. Finalement, ses harcèlements incessants et ses tracasseries politico-administratives le conduisirent à s'établir en Suisse en 1952. Mais revenons au dictateur et retraçons rapidement le synopsis. Au cours de la Première Guerre mondiale, dans un pays imaginaire, la Toménia, qui ressemble à s'y méprendre à l'Allemagne, un soldat qui se montre particulièrement distrait, maladroit et inapte au combat, sauve la vie d'un pilote de chasse, Schulz, interprété par Reginald Gardiner. Tous deux s'enfuient en avion, avant de s'écraser rapidement. Le soldat est blessé. De toutes les façons, la guerre est finie, perdue pour la Toménia. Devenu amnésique, le personnage principal passe plusieurs années à l'hôpital, coupé du monde. Entre-temps, la Toménia a vu s'installer un régime autoritaire dirigé par Adenoïde Hinkel, en fait Adolf Hitler, et le pays persécute désormais les Juifs comme sous le régime nazi. Le soldat réussit finalement à s'enfuir de l'hôpital et à revenir dans sa boutique de barbier située dans le ghetto juif. Ce petit barbier juif méconnaît l'évolution politique et sociale de son pays. En outre, il ignore qu'il est le parfait sosie de son tyran. Arrêté lors d'une rafle, il est accusé de comploter contre le régime d'Hinkel et se retrouve bien vite en camp de concentration avec l'officier Schulz. mais ils finissent tous deux par s'évader au moment même où la Tomenia envahit l'Österlich. Le comique de situation tient au fait que les soldats vont confondre le barbier juif et l'autocrate Hinkel, si bien que ce dernier sera arrêté comme fugitif, tandis que le barbier, qui est au contraire pris pour le dirigeant suprême, se retrouvera condamné à improviser un discours radio diffusé devant un large parterre de la population. Dans son allocution, le barbier lancera alors un appel humaniste prônant la tolérance, la démocratie et la paix. Comme dans la plupart de ses films, Chaplin a écrit, réalisé, produit, composé la musique et joué dans ce film où il interprète à la fois le rôle de Hinkel Hitler et celui du petit barbier juif sous les traits du célèbre Charlot, le vagabond que le public du monde entier connaît alors depuis déjà plus de 2 décennies. L'artiste joue aux côtés de sa 3e épouse, la comédienne Paulette Goddard, qui interprète le rôle de Anna, prénom qui se trouve être celui de la mère de Chaplin. Le montage est constamment cursif et confère au film un rythme très dynamique. Les gags s'enchaînent de manière endiablée et quelques scènes très brèves et synthétiques font explicitement référence à des temps forts de l'Allemagne nazie. Comme par exemple la destruction des boutiques juives dans le ghetto par la soldatesque de Tomenia qui s'en prend pour finir à Anna en la lapidant à coups de tomate. Une scène qui évoque bien sûr, en la caricaturant, la nuit de cristal, autrement dit le pogrom contre les juifs du Troisième Reich qui se déroula sur tout le territoire dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 et dans la journée qui suivit. Il résulta de cette grande manifestation de violence antisémite la destruction de 200 synagogues et lieux de culte, ainsi que la mise à sac de 7 500 commerces et entreprises exploités par des juifs. De plus, une centaine de juifs furent assassinés, tandis que plusieurs centaines d'autres furent acculés au suicide. Parmi les nombreux morceaux d'anthologie présents dans ce chef-d'œuvre, mentionnons la magnifique scène où Hinkel tient un discours délirant, au cours duquel il ne cesse de vociférer et d'éructer devant un auditoire en pamoison. Pour l'occasion, Chaplin a inventé une bouillie verbale à consonance germanique. Il a forgé tout un langage sans signification, composé de fragments de mots. Dans ce sabir des opilants, on reconnaît certaines expressions comme Blitzkrieg, Frischsprachen ou In der Welt, qui signifie dans le monde. Des bribes sonores toujours cocasses, des onomatopées, des cris gutturaux, des grognements et autres borborygmes qui placent le personnage plus près de la bête que de l'homme. La dimension sexuelle n'est pas absente non plus, loin s'en faut. Ainsi, au paroxysme de son discours, Hinkel se verse-t-il un verre d'eau froide dans son pantalon et sur son sexe. Chaplin nous suggérant par cette action que le personnage se trouve alors près de l'orgasme et doit décider précipitamment de mettre un terme à son emprise sur la foule en transe. Renvoie à cette même logique du coitus interruptus le fait d'ordonner à cette masse, par un seul geste de la main, de cesser immédiatement ses acclamations, pour se figer dans le silence et l'immobilité, avant de reprendre ses ovations lorsque d'un signe, il lui en donne l'ordre. Ainsi en est-il à plusieurs reprises de l'accouplement entre le porteur de charisme et cette foule hystérique, toute à sa dévotion. À travers cette scène, Chaplin semble nous dire qu'Hitler, détenteur d'un pouvoir de séduction messianique, n'a pas été un tyran imposé à l'Allemagne, mais qu'il a bel et bien bénéficié au contraire d'un immense soutien populaire. Suivent quelques admonestations et injonctions proférées par Hinkel et qui visent à stigmatiser la démocratie, la liberté, notamment la liberté d'expression, et à exiger par conséquent de nécessaires sacrifices. Puis il rappelle à la foule en délire que la Tomenia est en matière de puissance et de belligérance le pays de tous les superlatifs et de tous les excès. Dès lors, l'ensemble compose un moment vraiment désopilant où l'hystérie rivalise avec le ridicule. Incontestablement, le comédien et réalisateur a réussi à accomplir là un morceau de bravoure aussi bien visuel que sonore. Mais il s'agit aussi d'une formidable déconstruction politique de ce que le philologue Victor Klemperer a appelé la lingua tertii imperii, la langue du Troisième Reich, la langue totalitaire qui a contribué au desservelage de tout un peuple. Cette scène, capitale, permet aussi de saisir très concrètement, physiquement, presque charnellement, ce que signifie le charisme en politique. En effet, rappelons que ce concept forgé par Max Weber offre l'avantage de bien comprendre que le charisme ne constitue pas une qualité inhérente à un individu. Au contraire, il s'agit plutôt d'un attribut qui est subjectivement perçu et construit par les adeptes du porteur de charisme, ces derniers projetant en l'occurrence sur lui leurs attentes et leurs émotions. Ce faisant, un groupe de partisans peut par exemple être convaincu de l'héroïsme, de la grandeur ou encore de la légitimité des propos de tel ou tel chef. Autrement dit, l'autorité charismatique constitue une forme de domination politique fondée sur les perceptions et les représentations du groupe, ce qui illustre parfaitement cette scène du dictateur. Certes, cette séquence s'avère burlesque, mais il s'agit d'un comique tragique, car Chaplin fait bien passer auprès des spectateurs toute la violence et le fanatisme qui émanent du personnage Hinkle. Hinkle fait rire, cependant il fait également peur. Avec ce discours, on songe aussi au congrès de Nuremberg, ou congrès du Reich, Reichspartagstag, le rassemblement annuel du NSDAP, le Parti National Socialiste, qui s'est tenu en Allemagne de 1923 à 1938. Et que la cinéaste Leni Riefenstahl a immortalisé en le sublimant dans son film Le Triomphe de la Volonté. Une œuvre à la gloire d'Hitler et bien sûr aux antipodes de la démarche chaplinesque. Autre scène mémorable, celle au cours de laquelle un discours de Hinkle, particulièrement agressif, est diffusé dans le ghetto par haut-parleur. Il effraie le barbier et Anna, ainsi que tous les juifs qui l'entendent et qui avaient espéré vivre dans la sérénité. Ces éructations offensives sont suivies de ce qu'Anna appelle avec justesse les troupes de la mort, qui saccagent tout sur leur passage et mettent le feu à la boutique du barbier. À elle seule, cette scène symbolise et fait explicitement référence aux nombreux pogroms qui se multiplièrent en Allemagne après 1933 et culminèrent avec la nuit de cristal déjà évoquée. Mentionnons également le dialogue loufoque mais inquiétant que Hinkle noue avec Garbitsch. Hinkle s'exclame à propos de grévistes qui sont tous bruns « Liquidez-les, nous n'aurons la paix qu'avec une race aryenne pure, la Toménia, une nation de blonds aux yeux bleus. Si on liquide les juifs et les bruns, on aura une pure race aryenne. » Garbitsch précise « Une Europe blonde, une Asie blonde, une Amérique blonde et un dictateur brun. Ah, le monde entier aura peur de vous. Personne ne s'opposera à vous. C'est votre destinée. Vous serez le dictateur du monde. Le monde sera entre vos mains. » Et tandis qu'il tient sérieusement ses propos délirants, Hinkle grimpe au rideau et exige de rester seul. Il s'ensuit alors un moment d'intense narcissisme et de profond infantilisme, au cours duquel l'autocrate saisit le globe terrestre dans ses mains. Il s'auto-proclame alors empereur du monde et joue avec la map monde jusqu'à ce qu'elle finisse par éclater entre ses mains et ne devienne qu'un simple déchet. Le ballet onirique qui symbolisait le prétendu monde merveilleux qu'Hinkle Hitler entendait construire, en dominant le monde, se termine donc de manière prémonitoire par l'éclatement du globe terrestre. Chaplin préfigure ici la thèse que Jan Kershaw développera bien des années après ce film et suivant laquelle la domination charismatique de Hitler était fondée sur une rage de destruction et une dynamique d'autodestruction. Enfin, la rencontre entre Benzino Napoleoni, chef de la Bacteria, et Hinkle marque un temps fort du film et consacre un nouveau morceau d'anthologie. En effet, Napoleoni vient d'envahir le Sterlich et a demandé à rencontrer Hinkle. Ce dernier l'invite donc en Toménia et vient l'attendre à la gare. Le réalisateur offre alors au spectateur une scène particulièrement savoureuse. Chaque tyran rivalise ensuite d'égocentrisme, multipliant les signes ostentatoires de pouvoir jusqu'au grotesque, notamment avec leur compétition infantile quant à la hauteur de leur siège. Le comédien Jack Hookie campe un Benzino Napoléoni jovial mais terriblement dominateur, vulgaire et très sûr de lui face à un Lincoln emprunté, pusillanime et capricieux. Cependant, lorsqu'il s'agit de négocier et de trouver un terrain d'entente au sujet de l'Österlich, les deux hommes s'affrontent et se battent. Hinkle rejette par exemple toute concession et refuse de signer le traité que lui propose Napoléoni. Mais il se montre incohérent, confus, incapable de s'exprimer clairement. Finalement, Garbitsch lui suggère une solution pour sortir de cette impasse en lui disant « mais signez donc, ce n'est qu'un chiffon de papier, il va retirer ses troupes et ensuite on avancera sans perdre un homme ». Une manière de régler le problème de l'espace vital, conquérir le Lebensraum par la ruse avant de l'accaparer par les armes. La double croix, double cross, signifie en anglais mensonge, trahison, qui représente l'insigne du régime présent sur les drapeaux et les brassards de tous les uniformes, symbolise donc à merveille ce climat de mensonge et de duplicité institué en mode de gouvernement. En l'occurrence, cette ruse de Garbitsch, cette invitation au mensonge prend la forme d'un mépris du droit international et du sacro-saint principe pacta sunt servanda, ou respect de la parole donnée, au fondement même du droit des gens. Elle fait naturellement penser aux accords de Munich signés les 29 et 30 septembre 1938, accords qui préfiguraient le futur démembrement de la Tchécoslovaquie. En effet, au terme de ces derniers, Hitler promit notamment au Premier ministre britannique Neville Chamberlain, mais aussi à la France, de mettre fin à la crise des Sudètes, et il s'engagea à en rester là pour préserver la paix. Or, il ne s'agissait que d'une tactique mensongère. En fait, la conférence de Munich, la conférence des dupes, marqua bien plus tôt le début de sa politique prédatrice, comme l'invasion de la Pologne allait le démontrer peu après, en plongeant le monde entier dans une nouvelle guerre mondiale. Enfin, grâce au subterfuge de Garbitsch, l'armée de Tomenia envahit le Sterlitz dans une opération d'autant plus bouffonne et grotesque que les soldats confondent Hinkle avec le barbier juif. Ce dernier se retrouve ainsi propulsé à son corps défendant et pénètre avec tous les honneurs sur le territoire qui vient d'être envahi. Chaplin rejoue là naturellement le scénario de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche perpétrée par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938. Simplement, il en inverse les termes et lui confère ce faisant une dimension loufoque au point d'en faire une farce grotesque. Avec Hinkle et son sosie juif, Chaplin crée une totale confusion quant à l'identité de ces deux hommes. Par ce jeu trouble sur ces personnages qu'il présente comme interchangeables, le réalisateur annule d'emblée la prétendue supériorité du peuple conquérant qu'incarnerait Hinkle et qui détiendrait les droits d'asservir et d'exterminer une prétendue sous-humanité errante représentée par le barbier juif.